Médiation ou justice ? Question rédigée intentionnellement de façon polémique, bien sûr, polémique à laquelle je mettrai immédiatement fin en disant que, pour introduire mes propos, selon moi, ce n'est pas, la question qu'il faut se poser n'est pas médiation ou justice, mais d'ailleurs ce n'est même pas une question que je pose, c'est une affirmation, je dis médiation donc justice, médiation donc justice. Je me suis intéressé à la médiation, en effet, parce que je me suis intéressé à la justice. On fait beaucoup de choses quand on fait une thèse de droit. Je me suis intéressé à la récusation des juges. Et en m'intéressant à la récusation des juges, depuis le Moyen-Âge essentiellement, jusqu'à nos jours, je me suis intéressé à leur éthique, évidemment, à tout ce qui tourne autour de l'impartialité. Je me suis intéressé à l'office du juge, bien sûr. Et en m'intéressant à l'office du juge, je me suis naturellement intéressé à son périmètre, à ce qu'est l'acte de juger. Et à un moment donné est venue, évidemment, la question de ces modes que l'on appelle alternatifs et qui nous sont enseignés la plupart du temps, comme donc des modes alternatifs à la justice, c'est-à-dire des modes qui échappent au juge, qui ne seraient d'ailleurs même pas de la justice, qui appartiendraient au domaine du contrat essentiellement. Bon. Et je me suis efforcé de poser des catégories, comme les juristes aiment bien faire, et je me suis dit, mais est-ce que la médiation, la conciliation, essentiellement, je ne parle pas de l'arbitrage, sont bien des modes alternatifs à la justice? Et je me suis dit, bien non, ce sont des modes alternatifs au procès. Alors, alternatifs en sens là, au procès uniquement, mais pas à la justice. Et il s'agit bien, je pense, il s'agit bien de modes qui tendent à réaliser la justice. Et alors, l'historien du droit est très bien servi, finalement, pour se rendre compte de ce phénomène que médiation et conciliation sont des actes de justice. Parce qu'au fond, médiation et conciliation concourent au rétablissement de la paix publique. On disait jadis de la concorde. Et cette concorde, c'est le premier objectif du juge. Lorsqu'on étudie les actes d'un juge, même à Rome, ou d'un juge au Moyen-Âge, ou d'un juge ou ancien régime, enfin peu importe, on se rend compte que sa première mission, c'est de rétablir la paix publique. Voilà. Et c'est d'ailleurs la mission avérée du premier d'entre tous les juges, en tout cas pour la France, et c'est le roi de France. Vous savez bien que toute justice émane du roi, c'est ce qu'on disait au Moyen-Âge. Le roi de France est le premier juge, et en tant que premier juge, il prête serment, dans le serment du sacre, il prête le serment de rétablir la paix. Tout simplement. Je vais vous donner ce serment du sacre. Je promets au nom de Jésus-Christ, au peuple chrétien qui m'est soumis, premièrement de faire conserver en tout temps à l'Église de Dieu la paix par le peuple chrétien, d'empêcher toute rapine et iniquité de quelque nature qu'elle soit, de faire observer la justice et la miséricorde dans les jugements, etc. Donc plusieurs niveaux, à commencer par la concorde, jusqu'au jugement, jusqu'à la sanction, bon, et à l'exercice de, j'allais dire, dur de la justice. J'avais fait passer quelques documents. J'avais fait passer notamment une peinture et une gravure. Je ne sais pas si... ce n'est pas très grave. C'est dans les documents. Alors, voilà, vous avez sous les yeux deux exemples picturaux qui rendent compte de ce que la première mission de la justice, c'est bien de rétablir la paix, c'est bien la concorde, c'est-à-dire, au fond, le résultat d'une médiation et d'une conciliation. Alors, on peut commencer par l'allégorie du bon gouvernement bon, ça ne va pas se voir là, de si loin, mais enfin, l'allégorie, merci, du bon gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti. Alors que c'est très connu, hein, ça se trouve dans le palais de la République, hein, Sienne, ça se trouve dans la salle des Neufs et dans le Palazzo Pubblico de Sienne. Pour ceux qui connaissent cette ville magnifique, bon, juste devant ce palais public a lieu le palio, hein, chaque été, cette course de chevaux. Bon. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont sans doute vu le dernier James Bond ou l'avant-dernier. On voit ce palio et donc le palais public. Eh bien, les murs de la salle principale sont peints, sont recouverts de fresques d'Ambrogio Lorenzetti qui datent du milieu du XIVe siècle. C'est l'allégorie du bon et du mauvais gouvernement avec les effets du bon gouvernement à la ville et à la campagne, les effets du mauvais gouvernement à la ville et à la campagne. Et ici, vous avez sous les yeux l'allégorie du bon gouvernement. Alors, on y voit le bon gouvernement entouré des vertus. Bon. Et à droite, on y voit la justice, on voit la balance, notamment, qui était déjà un symbole assez net de la justice. Et au pied de la justice, alors c'est indiqué, hein, les peintres, au fur et à mesure, ont perdu l'habitude d'écrire et de désigner ce qu'ils peignaient. Mais là, c'est écrit, vous avez, au pied de la justice, vous avez la concorde. Vous avez la concorde, c'est écrit. Concordia. Alors, ce peintre admirable a réalisé un jeu de mots pictural, parce que la concorde, elle tient deux choses entre les mains. Elle tient un rabot pour aplanir les différents, rabot que l'on retrouve dans d'autres représentations, notamment dans la Mélancolie de Dürer. Dans la Mélancolie de Dürer, vous avez tout et n'importe quoi, si j'ose dire, mais vous avez énormément de symboles, mais il y a une balance et un rabot. Vous avez, elle tient un rabot et elle tient une corde qui passe par les mains de la population siennoise. Cette corde, c'est l'élément qui relie la population, c'est un élément fédérateur. Et c'est un jeu de mots. Concordia. Voilà. C'est un jeu de mots pictural qui est remarquable, à mon avis. Mais enfin, pour vous dire que cette concorde est la première et essentielle, d'ailleurs, hein, mission de la justice, c'est vraiment l'élément fédérateur d'une communauté. Alors, il y avait dans la deuxième gravure un autre petit exemple qui montre que la mission de la justice n'est pas seulement de trancher, mais c'est aussi de pacifier. C'est cette gravure que l'on trouve dans un ouvrage d'un juriste, un ouvrage qui date de 1494, qui s'appelle « La Nef des Fous ». C'est un juriste allemand, hein, pour autant qu'on puisse le qualifier d'allemand à l'époque. Sébastien Brandt, bon, on n'est pas graveur, il va demander... Alors, on pense que c'est Dürer, justement, qui fait ces gravures. On n'a pas vraiment la preuve, mais enfin, les historiens de l'art se rejoignent à peu près sur cette question. Et on y voit pour la première fois une justice aux yeux bandés. Mais c'est un fou qui bande les yeux de la justice. Alors, je ne vais pas revenir trop là-dessus. La première manifestation du bandeau sur les yeux de la justice, c'est celle-ci, et c'est un symbole péjoratif. C'est pour dire que la justice est mal rendue. Alors, en un demi-siècle, à peu près, le bandeau deviendra un symbole valable. Bon, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas expliquer ici, je n'ai que trop peu de temps, j'ai mis mon petit chronomètre en route et j'ai déjà parlé presque 10 minutes, il me reste donc un peu plus de 5 minutes pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit cette justice aux yeux bandés par un fou, parce que c'est le tumulte, dit Brandt, hein, c'est le tumulte et les gesticulations des mauvais plaideurs qui aveuglent, en fait, la justice. Et la justice, elle tranche, bien sûr, elle pèse, bon, très bien, Mais on voit d'autres éléments, dont un d'ailleurs qui est assez irrévérencieusement fiché dans les fesses du fou. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de raquette avec ces pics qui en sortent ? Eh bien, ce sont des cardes pour carder la laine, c'est-à-dire pour la démêler. Pour la démêler. Voilà. Et donc pour... évidemment, démêler les différents, les aplanir comme le rabot pouvait le symboliser dans l'autre peinture, enfin dans la peinture de Lorenzetti. Alors vous voyez, la justice n'a pas pour seule mission de trancher, la vérité n'est pas sa seule mission. La première mission, dans l'ordre quasi chronologique des choses, c'est de se faire médiateur ou médiatrice. Alors, raison pour laquelle ma vision de la médiation a pu heurter un certain nombre de personnes qui, de collègues, de magistrats, ou même d'avocats, ou de citoyens non juristes, parce que dans l'esprit commun, dans l'esprit général, parce que commun c'est un peu péjoratif ou méprisant, je ne veux surtout pas dire que ça y a un esprit commun qui soit le tout venant. non, ce n'est pas ça. Mais dans l'esprit général, l'idée, c'est que la justice, c'est ritualisé, c'est procéduralisé, ça cherche la vérité, ça correspond à des institutions bien réglées avec un juge, bon, notamment, et des avocats, des droits de la défense. Bon. Et puis la médiation, c'est... voilà, une sorte de relation très horizontale, on se voit entre nous, et puis éventuellement, on se serre la main à la fin et tout va bien. Bon, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça puisque si les parties qui ont un différend, alors je ne parle même pas ni de conflit ni de litige parce que ce sont deux notions juridiques particulières. On parle de différend aujourd'hui, on parle de mode amiable de règlement des différends. Et non pas de mode alternatif de règlement des litiges ou des conflits. Ça, c'est terminé. Bon. Quand on a recours à ces modes alternatifs, enfin non, pardon, mode amiable, vous voyez, même moi, ma langue fourche, parce que j'ai été éduqué comme ça. C'est ça qui est terrible, c'est que j'ai été éduqué comme ça. Eh bien, si on est d'accord au préalable, il n'y a pas besoin de se voir, à la limite. Si on a idée qu'on va tout de suite s'arranger, à quoi bon ? Non, la question qu'il faut... Enfin, le phénomène qu'il faut bien réaliser, c'est qu'on envisage éventuellement de se regrouper, de se retrouver, une partie face à l'autre, mais jamais seul. Mais pas seul, parce que si on se retrouve seul, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on est d'accord, de toute façon, si on se retrouve seul. Non. Une médiation nécessite un tiers, comme un acte judiciaire traditionnel, un conciliateur ou un médiateur. Et dans cet acte, alors, la médiation, puisque c'est le mot moi qui m'a intéressé, on pourra revenir sur la distinction entre médiation et conciliation, mais au fond... il y a peut-être une méprise dans les termes. Je me demande si le droit ne s'est pas trompé à un moment donné. En fait, que le législateur, quand il a tenté d'insérer ou d'intégrer dans les relations judiciaires le conciliateur et médiateur, parce qu'une conciliation, au fond, c'est le résultat d'une médiation. Bon, donc, passons. Le mot qui m'a intéressé, moi, c'est le mot médiation. Pourquoi ? Parce que j'y trouve dans ce mot... l'essence même de ce qu'est la médiation, c'est-à-dire un acte d'autorité. Alors attention, un acte d'autorité, il ne faut pas non plus se méprendre sur ce qu'est l'autorité. Donc je reviendrai très rapidement sur ce que j'ai trouvé dans le mot médiation et ce qu'il faut entendre par autorité. Alors pourquoi dans la médiation il y a l'idée d'autorité ? Alors ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les exemples qu'on peut trouver dans l'histoire notamment. Et c'est la linguistique. Alors, je commence par la linguistique, pour aller très, très vite. C'est Émile Benveniste, qui, dans les années 60, a mis au jour, au fond, l'idée principale que l'on trouve dans l'habilitation. Alors, c'est un ouvrage qui est sorti dans les années 70, qui est très, très connu. C'est le vocabulaire des institutions indo-européennes. Alors, ça, c'est une mine. Bon, c'est une mine pour le juriste. Et il décrypte les mots qui ont pour racine MED, M-E-D. Et voici ce qu'il nous dit. Attendez, alors je cherche le passage le plus frappant. Voilà, pour donner une définition approximative de MED, on pourra dire que c'est prendre avec autorité les mesures qui sont appropriées avec une difficulté actuelle, ramener à la norme par un moyen consacré un trouble défini. Alors il nous a parlé notamment du médecin. Le médecin, c'est un mot qui commence par MED aussi, et qui ramène par un acte, qui réduit par un acte d'autorité un trouble. Alors un trouble physique, mais un trouble tout de même. Et il nous parle aussi du médiateur. On arrive enfin au sens juridique qui est dans l'osque medix. Alors évidemment, il utilise toutes les langues de la péninsule. Toutes ces composantes se retrouvent ici et servent à préciser l'équivalence constatée entre med et ius, donc le droit pour les Romains. Il y a d'abord la notion d'autorité incluse dans l'emploi de dico. L'idée centrale est celle d'une mesure choisie dans un répertoire traditionnel à appliquer à un cas présent. Bon, je pourrais multiplier. Il revient, Benveniste, sans cesse à cette idée que dans les mots composés par MED, il y a cette idée d'autorité. Et on la retrouve, cette autorité, on la retrouve dans des exemples historiques. Dans les archives, on trouve au XIIe siècle un acte par lequel on observe un seigneur qui intervient dans un litige qui oppose deux de ses pairs. Un jugement est sur le point d'être rendu, mais le seigneur, qui joue le rôle d'intermédiaire, mais parce qu'il est une autorité pour les parties opposées, le seigneur propose une médiation, propose de terminer, de régler le différend avant le jugement. Et c'est ce qui se passe, on n'a pas la décision, puisqu'il n'y a pas de décision. Les parties se sont mises d'accord, mais elles se sont mises d'accord parce que le médiateur a tenu le rapport entre les deux. Il est au milieu et il tient le rapport fermement entre les deux. Alors c'est pour ça qu'il y a des définitions de la médiation qui ont été, moi qui ne me convient pas tout à fait, ce médiateur qui soit biodégradable, je l'ai entendu ça, c'est un médiateur qui est là, qui propose que les parties s'écoutent, c'est un moyen de communication. Voilà. Bon, je vais un petit peu plus loin, en tout cas moi, je vais un petit peu plus loin, je ne sais pas, mais c'est un moyen de solution, plus que seulement de communication. Autre exemple, 1298, le roi, donc vous l'avez dans les textes, le roi fait un acte de paix en ratifiant et couvrant de son autorité une composition. Il couvre de son autorité une composition, c'est-à-dire un accord qu'il y a entre les parties, une médiation qui met fin à un litige, qui opposait l'évêque de Limoges à une communauté d'habitants. 15e siècle, un commerçant de senlis est passé à tabac par trois autres bourgeois. Alors il s'agissait d'une affaire d'adultère, ça c'est intéressant parce que dans des villes, petites villes, on n'a pas envie que les choses soient dites, surtout un adultère. Et surtout lorsque l'agresseur se venge en quelque sorte. Bon, c'est très compliqué. On prend l'agresseur et on lui dit « Mais pourquoi avez-vous agressé ?» Bien parce que je me venge de m'être fait cocufier. Bon, c'est un peu gênant aujourd'hui comme à l'époque. Le médecin qui vient soigner l'agressé est pris comme médiateur. Le médecin est une autorité particulière à l'époque. On est au XVe siècle. Alors, médecin, évidemment, bon, on ne va pas jouer sur les mots, mais c'est une autorité et il, précisément, joue ce rôle. Il s'interpose parce qu'on le lui demande ou en tout cas parce qu'on le sollicite, mais il s'interpose dans la décision. Et, évidemment, on arrive à régler le problème. Alors, vous voyez, Ce médiateur est plus, à mon avis, bien plus qu'un simple connecteur. Bien plus qu'un simple connecteur, il fait acte d'autorité. Alors maintenant, pour terminer, je voudrais revenir sur ce qu'il faut, à mon avis, entendre par autorité. Autorité n'est pas un acte vertical descendant. Une autorité, au fond, ne s'impose pas. Elle ne s'impose pas par celui qui veut qu'elle soit imposée. Non, ce n'est pas ça. Alors, on a des textes remarquables, notamment des textes de philosophes. On a Arendt, bien sûr, mais pas seulement. On a Gadamer. Gadamer, qui est très intéressant pour nous, très intéressant, parce que en reprenant Arendt, il a, à mon avis, donné la clé de ce qu'il faut entendre par autorité. On est dans les années 60, là encore. Arendt avait révélé que dans la notion d'autorité, il y avait la question de la reconnaissance. De la reconnaissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité lorsque ceux auxquels cette autorité est délivrée ne la reconnaissent pas. Ça veut dire qu'il y a un circuit qui n'est pas seulement vertical descendant, ce n'est pas un vecteur vertical descendant, c'est un cercle. Alors certes, qui commence par descendre, mais c'est une boucle qui remonte, hein, qui suscite l'adhésion. Donc on reconnaît une autorité, mais cette autorité, si vous voulez, elle s'exerce, mais elle est validée à chaque fois et à chaque instant. C'est ça qui est très intéressant avec l'autorité, c'est qu'elle est, elle est quotidiennement renouvelée. À l'inverse de la légitimité qui, elle, connaît un point de départ. L'autorité, on peut perdre son autorité. Je pense par exemple à l'autorité du maître. L'autorité du maître, c'est qu'on lui reconnaît une supériorité, on va dire, une supériorité, enfin quelque chose en plus. D'ailleurs, que les Romains nommaient, que les Latins nommaient magis, hein, cette chose en plus. Et magis, évidemment, le magistrat, c'est celui qui avait quelque chose en plus, qui faisait venir à lui ceux qui n'appartenaient pas à la sphère, par exemple, du citoyen. Voilà. Bon. Et le maître, le magistère, le maître, c'est précisément celui qui a quelque chose en plus, et notamment qui a du savoir en plus. Eh bien, lorsque ce maître, auquel on reconnaît cette autorité, est pris en flagrant délit d'ignorance, son autorité est finie. C'est terminé. Au mieux, il pourra la reconquérir. Mais c'est ça, l'idée d'autorité, c'est ce mouvement circulaire de reconnaissance. Alors, c'est ce que disait Arendt, mais Gadamer ajoute quelque chose, hein, donc elle repose sur la reconnaissance, dit-il, par conséquent sur un acte de la raison même qui, consciente de ses limites, accorde à d'autres une plus grande perspicacité. Alors c'est traduit de l'allemand bien sûr, mais ce mot perspicacité, c'est le mot essentiel à mon avis qui qualifie l'autorité. Et c'est ce dont dispose le médiateur au fond. Alors chez certains... comme le maître, c'est le savoir. Chez d'autres, ça peut être... C'est autre chose. Bon, peu importe. Mais ce dont dispose le médiateur, c'est cette perspicacité que lui reconnaissent ceux qui vont requérir à sa médiation. Hein, voilà. Ce sont ceux-là. Et ils vont accepter que ce médiateur fasse non seulement le lien, mais offre par cette autorité-là, la possibilité d'une solution. Voilà. Bon, j'aurais aimé vous parler de beaucoup d'autres choses, mais pour terminer, c'est ce que je voulais vous dire. La médiation n'est pas un mode alternatif de justice, c'est de la justice. C'est pleinement de la justice. C'est la première mission de la justice que de parvenir à une solution pacifiée. Et précisément de parvenir à une solution pacifiée par le biais d'un acte d'autorité, médiation, conciliation. Et cette vision, d'ailleurs, je m'en aperçois maintenant, je m'en rends compte, c'est une vision qui est satisfaisante pour le juge, puisque le code de procédure civile notamment son article 21 le lui permet, le juge ne savait pas très bien quoi faire de cette possibilité de concilier les parties. Le code lui offre la possibilité de concilier les parties. Toujours été très prudent, le juge, à concilier les parties. Mais de plus en plus, aujourd'hui, le juge, et notamment les juges des tribunaux de commerce, s'emparent de cette possibilité dès lors qu'ils prennent conscience que la médiation est un acte d'autorité, n'est pas un mode d'infrajustice, ce n'est pas de l'infrajudiciaire, c'est de la justice, et c'est pleinement donc leur rôle en tant que personne d'autorité. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que je n'ai pas heurté trop de sensibilité. Merci. On verra plus tard. Allez-y.
Dans cette salle, on s'entend bien, dans d'autres moins.
On a besoin du micro parce que
tous les
rencontres sont enregistrés.
Ah d'accord. Alors je vais
toutes les avoir sur le site.
Je vais quand même faire une lecture et qui fait le lien avec ce que vous avez dit en introduction quand vous avez parlé de Concorde. Je vais vous lire, je ne sais pas si vous devinerez à quelle époque ces textes ont été écrits. Ce sont des exposés de motifs de textes législatifs. Et je cite, « Les bureaux de paix sont placés devant les tribunaux de justice afin de calmer ce que la passion y conduit, de leur présenter les dangers et les peines dont cette même passion leur dérobe la perspective, de leur offrir les moyens de conciliation qu'ils ne sauraient saisir d'eux-mêmes. L'Assemblée nationale a voulu que personne ne puisse entrer dans le palais de la justice litigieuse sans avoir passé auparavant par le temple de la Concorde. » Et puis un autre texte très court. « Le juge de paix fixera certains jours où il entendra les parties comme simples médiateurs et ceux où il entendra et prononcera sur leurs différends comme juge. » Voilà, ce sont des exposés des motifs de texte qui datent de 1790. Je voudrais quand même reprendre, énoncer certaines définitions pour bien cadrer le débat. Je laisse à d'autres le soin de dire si le sujet justice ou médiation est fondé, si l'opposition est fondée. Je pense que tout le monde a compris qu'elle ne l'est pas. Mais je voudrais qu'on aille peut-être un peu plus dans le détail de la pratique. Puisque sous la dénomination de mode alternatif de règlement des litiges ou des conflits, alors les mots changent, mais les idées restent les mêmes. Hein. Monabiable, différent, conflit. Alors il y a bien sûr des précisions juridiques, mais on n'est pas là pour faire trop de précisions juridiques. Se retrouvent quand même des notions assez différentes. Tous ces modes alternatifs de règlement des conflits, moi je suis effectivement de la vieille école, donc j'utilise ce terme qu'on appelle marque, ont pour objectif d'arriver au règlement des conflits sans l'intervention d'un juge étatique, soit par un accord direct entre les parties, soit par une décision rendue par un tiers. Je n'aborderai pas, bien sûr, cette question des décisions rendues par un tiers non étatique. C'est le problème de l'arbitrage ou de certaines autres procédures. Les marques qui ont pour objectif premier d'arriver à la conclusion de cet accord avec l'intervention d'un tiers qui va se placer en position d'aider les parties. Il y a la médiation, bien sûr, et la conciliation. Et souvent, on les confond alors que ce n'est pas tout à fait la même chose. La médiation, il y a un grand nombre de définitions, elle est définie généralement comme un processus structuré, et non pas une procédure, bien sûr, un processus structuré de résolution des conflits, des différends, par lesquels les parties à un différend acceptent librement l'intervention d'un tiers indépendant, impartial et neutre, sans pouvoir décisionnel, qui permettra de rechercher, par un dialogue constructif et loyal, une solution à ce différend. La conciliation, le terme de conciliation, recouvre en réalité deux notions distinctes. C'est l'objectif de l'intervention du tiers, c'est-à-dire l'accord, la conciliation. Et là, conciliation, médiation se rejoignent. L'objectif, c'est un accord, donc se concilier. Mais les modes pour y parvenir, dans ce qu'on appelle la tentative de conciliation ou la médiation, sont différents. La tentative de conciliation, c'est quelque chose qui est peu structuré, qui se fait par la réunion entre les parties, avec l'intervention de ce tiers, mais qui n'est pas forcément un professionnel, plutôt quelqu'un de bonne volonté, et qui va, le cas échéant, donner son avis. Cette réunion doit pouvoir, par une seule séance en général, et à titre gratuit, puisque l'essence de la conciliation, c'est d'être gratuit, doit pouvoir permettre d'arriver à un accord. La médiation est quelque chose de beaucoup plus complexe, puisque c'est un processus qui est, comme je l'ai dit, structuré, par lequel les parties, avec l'aide de ce tiers, vont tenter de renouer ou de nouer un dialogue qui n'existait pas ou qui n'existait plus entre elles, et de parvenir, par tout un mécanisme, si vous voulez, de dialogue, mais un peu complexe et un peu élaboré, de parvenir à accepter, non pas la véracité ou le fondement de la position de l'autre, mais déjà l'existence de cette position de l'autre, et à partir de ce constat commun de compréhension de la position de l'autre, arriver à essayer de construire une solution. Alors le tiers dans la médiation, à la différence du conciliateur, le médiateur, bien sûr, n'a pas de pouvoir décisionnel, le conciliateur n'en a pas, mais surtout, il est neutre. Neutre, ça veut dire, outre son indépendance et son impartialité, qui sont des notions qui vont de soi quand on intervient dans un litige concernant ou dans des différends concernant les autres, il est neutre en ce sens que ce n'est pas une notion passive, ça ne veut pas dire qu'il est passif. Il est neutre, ça veut dire qu'il ne donne pas son avis sur le fond du litige, et ce n'est pas lui, le médiateur, qui propose une solution. Il est là, exclusivement, et de façon active, bien sûr, pour aider les parties à renouer ce dialogue, comme je l'ai dit, et à trouver cette solution, trouver en elle-même les ressources de cette solution. Alors ça passe par un certain nombre de phases, qui c'est pour ça qu'on dit que c'est un processus structuré, par lequel le médiateur, par son écoute attentive, par ses questionnements, par des reformulations des différentes phases du raisonnement, va créer une dynamique qui amènera chacun à être sensible et à intégrer la position de l'autre, pas forcément à l'accepter, et qui vont permettre aussi, cette dynamique va permettre de rechercher aussi, derrière le litige, le différend apparent, quel est le désaccord fondamental, qui n'est pas toujours celui pour lequel on envisagerait de saisir le juge, parce que derrière, il y a autre chose, il y a l'objet du litige, mais il y a les sujets ou les acteurs du litige. Quelques règles de ce processus de médiation, c'est bien sûr, là, le médiateur qui n'a pas de pouvoir décisionnel est le garant de cette communication entre les parties, et il est là pour veiller au respect de ces règles dont l'essentiel est le respect de l'autre, et qui est le garant d'une bonne communication respectueuse d'autrui. Sinon, il n'y a pas de progrès possible dans la discussion. Il est aussi là pour garantir certaines règles, notamment la confidentialité. Et ça, c'est très important, à la différence du procès, qui, sauf exception, est public. La conciliation, mais je ne parle plus maintenant que de la médiation, est un processus confidentiel. C'est-à-dire que chaque partie, rien de ce qui se dit ou de ce qui sera produit dans les réunions de médiation ne peut être utilisé par la suite dans un procès si la médiation a échoué, sauf l'accord des parties. Et en tout tas de causes, nous dit le Code de procédure civile et les chartes de déontologie des médiateurs, ne peut être utilisé dans une autre instance. Pourquoi cette confidentialité ? Parce que c'est le prix qui va permettre à chacun de s'exprimer plus librement, puisqu'il saura que rien de ce qui aura été dit ou produit, ou des documents qu'il aura produits, ne pourra être utilisé contre lui dans un autre cadre, et notamment dans un cadre contentieux. Alors je passe, puisqu'on est quand même un peu limité par le temps, sur tout ce qui peut opposer conciliateur et médiateur quant à leur formation, quant à leur nomination, quant à leurs conditions pour exercer de telles fonctions. Je rappelle simplement que la médiation peut être conventionnelle, c'est-à-dire résulter d'un contrat entre les parties qui décident librement, avant d'aller tout autre recours, de se rapprocher avec l'aide d'un médiateur, donc c'est un contrat. Mais elle peut aussi être judiciaire, c'est-à-dire ordonnée par le juge, mais avec l'accord des parties. Et cet accord est fondamental, parce qu'il n'y a pas de médiation. Contrairement aux idées reçues et à celles qui sont un petit peu propagées actuellement, il n'y a pas de véritable médiation, sinon on est dans un autre cadre, sans une liberté totale des parties, liberté d'y recourir ou de ne pas y recourir, liberté lorsque la médiation est commencée, éventuellement d'arrêter le processus, si on a le sentiment qu'on perd son temps, qu'on se fourvoie, que l'une des parties fait semblant. Donc liberté d'arrêter le processus, liberté avec bien sûr l'aide du médiateur d'en gérer les étapes, c'est-à-dire le nombre de réunions, leur durée, un certain nombre de choses comme ça. Et puis surtout, liberté de la solution qui sera adoptée par les parties si elles arrivent à s'entendre, avec bien sûr, mais ça je vous laisse le soin d'en parler, la participation active des avocats. Dans le processus de médiation judiciaire, l'avocat doit rester partie prenante, alors sous une forme un peu différente du rôle qu'il a quand il plaide un dossier, mais il doit être partie prenante et il reste bien sûr conseil dans les échanges et dans la solution qui sera adoptée. Liberté dans la médiation, c'est quelque chose qui est indispensable. Et cet échange va, pas toujours, bien sûr, il y a un certain nombre de médiations qui échouent, mais le plus souvent, lorsqu'on prend son temps, lorsqu'on espace les réunions, ce qui permet une maturation entre deux séances, lorsqu'on est suffisamment attentif, lorsqu'on veille à l'expression libre de chacun, lorsque le médiateur par ses questions et par ses paroles, ses prises de parole, reste perçu comme totalement impartial et bien sûr indépendant et neutre, on aboutit en général à un progrès dans la relation. Et même s'il arrive que des médiations n'aboutissent pas à un accord juridiquement au moment où elle est terminée, elles permettent le plus souvent de rétablir ou d'établir un lien et une communication entre les parties qui sont un facteur de paix entre elles dans le futur. Alors, qu'est-ce qui va, j'ai plus que 5 minutes, je crois, qu'est-ce qui va conduire un juge, puisque moi j'ai une double expérience, si vous voulez, de juge et actuellement de médiateur, qu'est-ce qui peut conduire un juge à abandonner son pouvoir de décision, c'est-à-dire de juger puisque, au fond, l'office premier du juge, c'est bien sûr, dans la perspective de la concorde et de la paix sociale ou de la paix individuelle, c'est de rendre une décision adaptée à un conflit qu'on lui soumet. Qu'est-ce qui va conduire un juge à penser qu'une médiation serait plus adaptée qu'un jugement? Alors, il n'y a pas de catalogue. Il y a des types de litiges où la médiation a quelques chances de réussir, et je vais vous les énoncer. Alors, je n'ai pas le temps de donner des exemples pratiques. Tout d'abord, il existe des litiges où l'application de la règle de droit, ils sont quand même relativement rares, mais ils existent, conduira à une solution inéquitable, ce dont les parties ont conscience. Et là, elles acceptent d'écarter, en quelque sorte, bien qu'elle reste sous-jacente, la règle de droit, et s'en remettre à un processus par lequel on va trouver une autre solution que la règle de droit pure et simple. D'autres litiges où l'application de la règle de droit va conduire à une solution trop tranchée ou pas suffisamment adaptée à un quotidien, et vous verrez pourquoi. Il y a des litiges où la règle de droit est vague, notamment un certain nombre de litiges d'ordre familial où on demandera au juge, si les parties lui soumettent le procès, de prendre en compte l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, c'est pas, on comprend bien ce que ça veut dire, mais il reste au juge à le découvrir. Il n'y a pas une réponse instantanée, prédéterminée sur ce qu'est l'intérêt de l'enfant. Il y a les litiges où, et c'est souvent une typologie de litige où la médiation peut être utilement proposée, c'est ceux où les parties ont des relations passées, présentes ou à venir durables. C'est-à-dire qu'elles sont amenées, ou elles ont été amenées, à coexister et où on s'aperçoit que demander à un juge de régler leurs différends ponctuels ne sera pas une solution forcément durable parce que les parties vont continuer à coexister. Je pense à la famille, bien sûr, mais aussi aux relations d'affaires entre certaines entreprises. Je pense aux conflits du travail, qu'ils soient des conflits individuels et surtout les conflits collectifs où les relations entre un chef d'entreprise et un comité d'entreprise ne vont pas disparaître avec le jugement qui sera rendu. Donc demain, s'il y a une autre difficulté, est-ce qu'on va retourner devant le juge pour lui soumettre à nouveau cette difficulté ? C'est les litiges de voisinage, bien sûr. C'est aussi les litiges entre des associés, que ce soit d'une société civile, immobilière, d'une société professionnelle, mais aussi d'une société commerciale. Dans tous ces litiges, il y a une notion, il y a un élément de durabilité des relations qui fait que le recours au juge va peut-être régler ponctuellement un problème. Il y aura un gagnant, un perdant, avec tout le ressenti affectif qui va en résulter. Alors que si, par le biais de ce processus structuré, on arrive à écarter l'aspect émotionnel du litige, l'aspect vindicatif, revendicatif, on va peut-être pouvoir bâtir une solution qui tiendra le coup à l'avenir. Alors, pas toujours, bien sûr, il faut rester modeste. Alors, le rapport entre la médiation et la, règle de, et la perspective de l'application de la règle de droit, il reste. La règle de droit, elle est toujours en substrat, en arrière-fond. C'est-à-dire, d'abord, les parties savent que si aucun accord n'est trouvé, on reviendra devant le juge pour lui demander de trancher le litige conformément à la règle de droit. Et puis, parce que c'est un guide, et les avocats seront là pour dire, attention, vous êtes en train de construire une solution, mais il faut aussi qu'elle soit conforme à vos intérêts et à la règle de droit. Alors, qu'est-ce qui fait que dans ces conditions, le juge peut prescrire une médiation? Alors, ce n'est pas son intérêt propre, hein. Contrairement aussi aux idées reçues, il ne s'agit pas de soulager les tribunaux de procès compliqués, difficiles et de jugements difficiles à rédiger. Non, ça c'est une fausse raison qui, à la limite, même discréditerait la médiation. Ce n'est pas dans son intérêt propre. C'est parce qu'il considère que ce qu'il va proposer, c'est-à-dire d'avoir recours à une médiation, est de l'intérêt des parties. Alors, sur le plan de la déontologie, voire même de l'éthique, le juge ne doit jamais faire pression sur les parties pour les forcer à accepter le recours à la médiation. D'une part, parce que ce serait contre-productif. On sait qu'une médiation qui est imposée a quand même beaucoup moins de chances de réussir qu'une médiation librement acceptée et voulue. Mais aussi parce que c'est contraire à ce qu'on peut considérer comme l'éthique de la médiation, qui est une éthique de communication libre. Et donc, si on force les juges à aller travailler avec un médiateur, qu'est-ce qui restera de cette communication libre ? Voilà, je ne veux pas empiéter, j'avais bien d'autres choses à dire. Simplement, peut-être on peut se rappeler que dans... Et je vous invite, si un jour vous avez la curiosité, à consulter cet ouvrage sur les vertus du juge, toujours par Antoine Garapon et d'autres auteurs, et où il est développé une petite conclusion très intéressante sur l'éthique de la relation du juge avec les parties, le justiciable, éthique qui est fondée sur la reconnaissance du justiciable, quel qu'il soit, que ce soit civil ou pénal, comme une personne à part entière et active, qui doit rester active, alors dans la défense de ses intérêts, pas là dans la construction de la solution du litige. Et dans la médiation, on a aussi une éthique de communication, puisque cette communication qui a pour objet de replacer chacun comme maître de ses droits, mais dans l'échange. Hein. Il faut arriver, et c'est pour ça que c'est un processus un peu structuré, complexe, à ce que chacun dépasse sa propre problématique pour entendre celle de l'autre, et pas seulement l'entendre de façon formelle, pour essayer sinon de l'accepter, bien sûr, parce que là, il y a tout de suite un accord, mais pour la comprendre, pour arriver à se placer dans la position d'autrui. On s'aperçoit que dans un conflit, généralement, cette position d'autrui est niée. Ce qu'on demande, c'est que l'autre s'incline. Il faut arriver dans la médiation à ce que l'autre ait une autre position que celle de celui qui doit s'incliner. Voilà, j'arrête puisque j'ai dépassé mon temps. Il y avait encore bien sûr d'autres choses à dire, mais voilà. Merci.
Bien. Moi, j'ai envie de parler des modes amiables de résolution des différends, puisque c'est comme ça que les textes nous les donnent, et face au décrochage judiciaire. Et je pense qu'il ne faut pas avoir de langue de bois. C'est-à-dire que, je le dis tout de suite, je suis formée en médiation, je suis formée au droit collaboratif, donc, et j'utilise beaucoup les modes amiables, donc je n'ai pas de problème par rapport à ça. C'est un élément important dans ma vie professionnelle. Mais il y a un premier enjeu au niveau des modes amiables qui est un enjeu économique. Alors, il y a l'économie et les économies. Je vais commencer par l'économie parce que les modes amiables, c'est quand même créer des circuits dérivatifs. Et ce n'est pas parce qu'on crée un circuit dérivatif pour ne pas aller devant le juge, et ça ne légitime pas forcément les modes amiables quand on crée des circuits dérivatifs. Alors, j'entends bien, les modes amiables, ça répond à trois besoins du marché, on l'a dit, simplicité, rapidité, sécurité. Et un pays est attractif pour les sociétés commerciales internationales, au regard d'ailleurs du développement des modes amiables. Donc ça montre quand même qu'au niveau de l'économie, c'est un outil de gestion, un outil d'aide pour trouver des solutions qui vont être négociées. Et on passe par une solution amiable plutôt que judiciaire. Mais on va parler aussi des économies. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a un développement des modes amiables, de la médiation ou la conciliation, parce que selon les pays en Europe, on parle de conciliation et de médiation. Et en France, d'ailleurs, la conciliation et la médiation conventionnelle, c'est le même article, c'est exactement la même définition. Et donc, ça renvoie à des choses qui devraient être à peu près, pour moi, équivalentes. Mais on va parler aussi des économies. Parce que quand, au niveau des finances de la justice, la France est maintenant que le 34e sur 40 sur le plan du budget de la justice, mais qu'on voit qu'il y a 10,7 juges pour 100 000 habitants, alors que la moyenne en Europe est de 21,3. Qu'on sait qu'il y a un certain nombre de magistrats qui vont partir à la retraite. Et que depuis quelques années, il y a eu une diminution du nombre de magistrats. On sait que ça va réaugmenter. Et qu'on a le même phénomène au niveau des greffiers. Excusez-moi, il y a des solutions qui doivent être trouvées sur le plan pragmatique. Donc il y a une partie quand même, une volonté du législateur de développer les monamias parce que ça correspond à un besoin et que nos juges sont complètement débordés dans certains contentieux. Et quand on regarde les juridictions du XXIe siècle, où on a eu l'occasion d'y être la semaine dernière, il y a des propositions quand même de sortir certains contentieux de masse des palais de justice, de façon à pouvoir aussi résoudre ce problème simplement du nombre de magistrats qui serait insuffisant. Il y a eu un sondage au niveau de la justice en août 2013. Et il y a trois reproches qui sont faits à la justice. Lenteur, complexité, coût. Et tout à l'heure, je vous ai dit, les besoins du marché pour les modes amiables, simplicité, rapidité et sécurité. On ne nous parle pas du coût, hein, mais voilà. Et on dit qu'il y a un tiers des Français qui auront affaire à la justice, c'est-à-dire environ 17 millions. Donc ces choses-là doivent être regardées. Et il y a un débat national. Et par exemple, si vous en avez entendu parler, on parle actuellement de se dire est-ce que les divorces par consentement mutuel pourraient être actés, prononcés par un greffier qui sera un greffier particulier, un greffier juridictionnel, et non plus le juge aux affaires familiales. Qu'est-ce qu'on nous donne comme élément ? On nous dit mais quand il y a un accord, en définitive, l'accord, il est fait entre les personnes et le juge n'a pas trop à s'en mêler. Il est là pour acter, pour homologuer et on ne se mêle pas forcément des affaires privées. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme les magistrats manquent de temps et qu'ils sont là pour trancher les vrais litiges, entre guillemets, je mets les vrais litiges, il faut leur redonner ce temps-là. On sait que dans les faits, ce n'est pas vrai parce que les juges qui font les divorces par consentement mutuel, si on leur enlève demain, ça ne va pas redonner du temps. C'est pas ce qui leur prend le plus de temps. En fait, on sent qu'il y a une volonté de sortir aussi une partie du contentieux familial en dehors des palais de justice, parce qu'il y a un moment donné, on ne pourra pas faire face aussi à ce contentieux. Et donc, après, on essaye un peu d'habiller les choses. Alors, moi, je le dis parce que le statut des magistrats et certains magistrats doutent quelquefois de leur fonction. Pour moi, la fonction de magistrat, elle est très importante. Le magistrat, c'est celui qui va faire en sorte que l'ordre public de protection des personnes ce sera vraiment respecté. Ça fait partie de son statut. C'est quelqu'un d'impartial. C'est quelqu'un qui a été formé pour cela. Et c'est pour ça que, pour ma part, les divorces par consentement mutuel, ça n'est pas remettre en cause les greffiers. Je dis, le greffier est là pour la bonne application de la procédure. Le magistrat est là aussi pour veiller à la bonne protection des personnes. Et voyez-vous, il y a quelquefois deux poids, deux mesures, parce que là où on dit que le magistrat va déléguer au greffier pour les divorces, même s'il y a des enfants, même s'il y a des personnes qui peuvent être beaucoup plus pauvres les unes que les autres et qu'il y a des équilibres à rectifier, en revanche, quand on parle du droit des consommateurs, là, on nous dit qu'il est impossible que le magistrat puisse déléguer un greffier. C'est le magistrat qui devra garder la plénitude de sa mission. Donc, voyez-vous que parfois, je me demande où on met l'ordre de protection. Ça, c'était l'enjeu économique ou les enjeux économiques. Le deuxième enjeu qui est fondamental, c'est la raison psychologique ou éventuellement idéologique. C'est qu'on dit que le sujet de droit est au cœur de la production normative. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un problème, c'est moi qui vais décider pour moi, c'est moi qui vais créer ma norme. Alors, on parle de contractualisation des relations entre les personnes, d'individualisme entre les personnes, d'où l'importance pour moi d'avoir un juge qui remette les choses à peu près dans l'ordre. C'est-à-dire que la loi, c'est le dénominateur commun qui fait qu'il y a égalité de tout le monde devant la loi. Et que, justement, même quand on arrive à un accord, je trouve que c'est important que le juge puisse homologuer l'accord après avoir dit qu'il considère que cet accord est correct et protège suffisamment les droits des parties. Mais alors, là, on est dans la contractualisation. Et on l'a bien vu vendredi, le justiciable, c'est un sujet de droit. Et donc, on doit le mettre au cœur du litige et au cœur de son procès. Là-dessus, je pense que c'est en effet très important de mettre le justiciable au cœur de son procès ou au cœur de son litige et qu'il y ait des personnes qui l'accompagnent pour trouver des solutions, quelquefois des solutions qui seront complètement en droit, quelquefois des solutions qui seront, on dit, ajuridiques, un peu à côté du droit, à une seule condition. Et ça, c'est le troisième enjeu. C'est que les modes amiables permettent aux personnes qui ont recours d'être véritablement accompagnés, d'être conseillés et de connaître leurs droits. C'est un élément fondamental et c'est une discussion par rapport aux médiateurs. Vous avez des médiateurs, Monsieur Garbi qui était à ma droite, magistrats, qui connaissent le droit. Et où, quand on fait une médiation, quand il y a un accord qui va être trouvé, il faut pouvoir dire si cet accord il tient la route. Parfois, nous avons des accords de médiation qui ne peuvent pas être homologués parce qu'ils ne sont pas conformes du tout au texte, et ça, on le voit quand même régulièrement. Et surtout, quand on fait une négociation, on va négocier sur des intérêts. On va négocier en connaissant ses droits. Tout n'est pas d'ordre public. Parfois, je vais renoncer à des droits. Mais pour renoncer à un droit, encore faut-il que je le connaisse. Or, parfois, il y a des gens qui vont trouver des accords en dehors du cursus judiciaire, en dehors des professionnels du droit, et qui vont se rendre compte, 6 mois après, qu'ils ont renoncé à quelque chose d'essentiel pour eux. Et là, je peux vous dire, c'est totalement explosif. C'est-à-dire que là, le juge va être ressaisi dans la foulée et le conflit va être très important. Alors, on comprend bien, quand on a un problème de téléphonie qui porte souvent sur des petites sommes, c'est là où le conciliateur il intervient beaucoup. On fait de la conciliation en ligne, beaucoup, de plus en plus par Internet. Et par exemple, au Canada, il y a une loi qui est en cours où on va dire qu'on sera obligé de faire de la médiation en ligne pour les litiges inférieurs à 12 000 $. Ça doit faire un peu... C'est énorme, hein, déjà. C'est énorme. Parce que les juridictions sont trop encombrées par ce type de litige. Donc, on va faire de la médiation. Ça va être une médiation pratiquement obligatoire, mais qui n'empêchera pas d'aller devant le juge. Parce que le grand principe constitutionnel, c'est qu'on a on doit pouvoir avoir accès au juge. La question qui se pose, c'est de se dire, avant d'accéder au juge, il faut essayer de trouver des accords. Mais parfois aussi, on va aller devant le juge. Et c'est quand on sera devant le juge qu'on va trouver des accords. Donc, dans ce cadre-là, il va bien falloir que le justiciable, le citoyen, soit protégé avec des garanties constitutionnelles qui sont importantes. La clé de la réussite des accords durables, c'est la manière dont on va les construire. Comment ça se construit, on vous l'a dit, mais on travaille comme ça dans nos cabinets d'avocats. Quand quelqu'un vient nous dire, je viens vous voir, je veux 100 000, ça ne va pas être dire, oui, allez, je vais tout de suite saisir le juge et puis je vais demander 100 000. Ça va être de dire, mais pourquoi vous voulez 100 000 ? C'est-à-dire qu'il faut approfondir et aller sur les véritables besoins des personnes. C'est ce qu'on appelle aussi la négociation basée sur les intérêts. Et ça, ce sont des notions qui viennent des États-Unis, du Canada, mais qu'on applique évidemment dans nos cabinets, parce que nous sommes là aussi pour faire un tri. Tout ne doit pas aller devant le magistrat. Et il y a beaucoup de différends qui vont donner lieu aussi à des négociations par l'intermédiaire des avocats. Encore faut-il que les gens aient affaire à des professionnels. Alors, j'en aurai terminé. Quel est le rôle des avocats là-bas ? D'abord, l'avocat, il est auxiliaire de justice. Moi, je crois au mode amiable, sous l'égide du juge. Le justiciable, ça ne veut pas dire avoir affaire à son juge, ça veut dire être dans... Les gens demandent des garanties de droit. D'ailleurs, 97% des gens qui ont un problème de voisinage disent qu'ils veulent trouver un accord, mais dans un cadre juridique. Ça veut dire, je veux bien trouver un accord, mais je veux que ce soit dans le cadre de la loi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de connaître la loi. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un accompagnement des professionnels du droit. Je ne vais pas parler des avocats. Les professionnels du droit, il y a les huissiers, il y a les notaires, il y a un certain nombre de professionnels du droit. Et là, c'est là où j'en reviens à mon premier enjeu au niveau des économies. Il ne faudrait pas que sous prétexte qu'il faut faire des économies, on en vienne à dire aux gens, écoutez, vous allez à l'extérieur de la justice pour essayer de trouver un accord. Et on sait que, par exemple, Internet propose des systèmes. On ne sait pas qui intervient d'ailleurs. Il n'y a pas de garantie sur les personnes qui vont accompagner le justiciable. Et c'est ce qui peut faire peur. C'est-à-dire que ce sont les exclus qui vont rester sur le bord de la route. Alors, l'avocat que je suis, quelle est la mission de l'avocat ? C'est de dire aux gens aussi bien le fond du droit que la manière dont les droits peuvent être... comment accéder à ces droits-là. Et pour accéder à un droit, il y a les modes amiables, il y a les modes juridictionnels. Et même si j'ai décidé de saisir un juge, eh bien, je peux toujours revenir au premier mode, c'est-à-dire à un mode amiable. Et dans ce cadre-là, je le dis, il y a des garanties que nous avons avec le juge. Par exemple, le juge, il y a une garantie importante, c'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Si un juge, dans un dossier, estime qu'il y a un conflit d'intérêts parce qu'il connaît une partie, il ne doit plus intervenir, il doit passer la main à un autre collègue. Eh bien, un avocat, il a les mêmes devoirs sur le plan de la déontologie. Si j'ai un conflit d'intérêts dans un dossier, je dois le dire, je dois sortir du dossier. Et ça, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne le lien de confiance. C'est ce que vous disiez peut-être au niveau de l'autorité. Moi, l'autorité, je peux reconnaître l'autorité de quelqu'un s'il est légitime à mes yeux et si je suis en confiance avec lui. Et si je peux être en confiance pour trouver un mode amiable, c'est si j'ai en face de moi quelqu'un qui a la compétence et qui a aussi l'indépendance. Donc c'est pour ça que, pour moi, les modes amiables, ça recouvre bien plus que la conciliation et la médiation. Je pourrais vous parler de la convention de procédure participative que les avocats peuvent utiliser, mais ça, si ça intéresse, on pourra en parler, mais qui sont aussi tous les modes qui peuvent amener les personnes à essayer de trouver un accord avant de saisir un juge, soit pour l'homologuer, soit si, en cas de désaccord, pour que le juge tranche en effet le litige.
Merci. Bien, alors, je voudrais rebondir donc sur tout ce que nous avons entendu. En essayant donc d'aborder la question également à un niveau, disons, philosophique, si on peut dire, étant entendu qu'effectivement, je ne bénéficie pas justement de la pratique qui est la vôtre, ce qui est d'ailleurs tout l'intérêt de ces rencontres, et je m'en rends compte en vous écoutant. Simplement, j'aimerais poser la question parce qu'elle m'est apparue donc à partir d'un, de la lecture donc d'un bouquin, je ne sais pas s'il est classique sur la question, mais enfin disons qu'il a eu son effet. Il s'agit donc d'un bouquin d'Irène Théry qui s'intitule donc le démariage, et qui précisément prenait la mesure de la nouveauté de la médiation dans le contexte du contentieux familial. Et donc Irène Théry va prendre la mesure de cette nouveauté dans la manière en France de régler ces différents litiges et différends par le biais de la médiation. Et elle va présenter les choses d'une façon au départ très, très, comment dire, en se plaçant à la place justement des turiféraires de la médiation. Parce qu'au départ, il y a eu un enthousiasme certain pour la médiation, parce que précisément, elle apparaissait comme un recours qui permettait de régler toute une série de problèmes que l'institution justice rencontrait et rencontre toujours, on vient de l'entendre. Et donc, évidemment, quand on parle effectivement et quand on entend le discours de certains partisans de la médiation, le discours était souvent binaire et manichéen. D'un côté, le rêve de la médiation, c'est ainsi qu'elle le présente, et puis de l'autre, le cauchemar de la justice. Cauchemar pour toute une série de raisons, c'est-à-dire effectivement des décisions qui sont au fond vécues comme froides, formelles, abstraites, lentes, coûteuses, inefficaces, impuissantes, hermétiques au commun des mortels, etc. L'institution, effectivement, apparaissait comme essentiellement malade. Et la médiation apparaît donc comme un recours parfait, au fond. Effectivement, le juge, nous dit Irène Théry, applique, décide, tranche, alors que le médiateur ne décide pas pour autrui, mais fait en sorte que les deux protagonistes, dans leur liberté propre, trouvent en eux-mêmes, par eux-mêmes, la solution de leur conflit et la sortie de leurs impasses. Alors, il me semble qu'il y a dans ce mouvement pro-médiation quelque chose qui touche également à la mutation des sociétés modernes et post-modernes que nous connaissons, puisque nous avons les deux pieds dedans, si je puis dire. Pour dire les choses, voilà comme je vois les choses, mais je soumets ça, ce ne sont que des hypothèses. L'idée, au fond, que je voudrais proposer, c'est que ce que dit, au fond, Marcel Gauchet de ce qu'il appelle la révolution des droits de l'homme. Grossièrement, trop grossièrement, l'idée serait la suivante: la Révolution française aurait balayé, d'une manière ou d'une autre, des fondements de la légitimité du droit, que sont Dieu, la tradition ou la nature, pour en proposer un autre, essentiellement donc la volonté générale. Donc on aurait un nouveau fondement, par là, de la légitimité des normes, de la légitimité du droit. Mais justement, ça c'est ce qu'ont fait les modernes. Si nous sommes postmodernes, il y a quelque chose au fond que nous ne supportons plus individuellement, c'est précisément la loi dans sa généralité. Parce que précisément, elle apparaît, cette loi générale, comme extérieure à moi, extérieure à la situation particulière que je traverse, transcendante, et pour tout dire donc hétéronome, extérieure à l'autonomie que je suis, disons, prêt à reconnaître sans cesse, et même arbitraire, au fond, arbitraire. Donc, je pense qu'est à l'œuvre, au fond, depuis quelques décennies, une nouvelle révolution copernicienne, si vous voulez, qui place non plus la volonté générale au fondement de la validité des normes, mais au fond, la volonté individuelle. Comme le dit Irène Théry, en citant des partisans donc dans les années 80, ça se passe dans les années 80 de la médiation, fondamentalement, ce renversement complet du pouvoir, toujours présenté comme la caractéristique première de la médiation, c'est par là qu'elle se singularise, si vous voulez, est lié à la disparition de toute référence exogène. Disparition de toute référence exogène, qu'elle revendique comme sa spécificité. Alors, peut-être que ces propos datent, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que les premiers partisans enthousiastes de la médiation voyait la médiation comme la possibilité de faire émerger des normes à partir de la volonté individuelle des sujets de droit et non pas en appliquant des lois générales, abstraites et censées être valables pour tous et chacun. J'ajoute cette petite citation. Si le médiateur est neutre et désintéressé, c'est qu'il n'est le représentant d'aucune autre instance, d'aucune autre règle que celle du dialogue qu'il a charge de favoriser. Voilà, pour le coup, c'est vraiment l'idée de faciliter un dialogue sans instance impérative d'aucune façon, si ce n'est la volonté consentante des personnes qui participent au dit dialogue. C'est ainsi que l'autonomie sera réellement atteinte, honorée, reconnue, mais non pas celle de la volonté générale, mais bien celle de la volonté individuelle. Alors tout se passe comme si je puis dire, comme si il fallait aller plus loin que les modernes, plus loin que Beccaria, si je puis dire, non pas se contenter d'une application de la loi générale à un cas particulier, etc. Il y a toujours une distance et un écart entre les deux, qui est toujours douloureux, mais découvrir, par le dialogue, la loi qui émerge du dialogue lui-même, médiatisé par, j'allais dire, le très neutre médiateur. Ce qui ne doit pas, lui non plus, faire advenir, par sa simple présence, une autorité extérieure aux personnes qui dialoguent. Et c'est souvent à ce moment-là que la médiation sera rapprochée de la maïeutique. Ce qui ne saurait laisser effectivement le philosophe insensible, mais ce qui ne manquera pas non plus de susciter sa méfiance. Quand il lit par exemple, je cite ici Benoît Bastard et Laura Cardia Vonesch, que je ne connais pas, mais disons, voilà, partisans de cette vision de la médiation opposée à la justice, or on a vu qu'effectivement nous n'étions pas d'accord là-dessus, et c'est, j'en suis très heureux, je cite, « Alors que la justice, j'allais dire celle de Beccaria, la loi générale qui s'applique comme ça, qui tombe comme un couperet sur le cas particulier, c'est-à-dire moi, alors que la justice repose par définition sur la référence à la loi que confère un mandat, la médiation ne connaît d'autres règles que celles que se donne. » C'est la notion même de l'autonomie, autonomos, la norme que je me donne. Donc, ne connaît d'autres règles que celles que se donnent les parties en présence. Alors, je voudrais vous proposer donc une sorte de, qu'est-ce qu'on peut dire, d'appréciation de cette vision de la médiation, et peut-être aussi de la promesse que la médiation porte en elle, mais qu'il faut savoir accueillir pour qu'elle puisse donner tous ses fruits, si je puis dire. Pour le dire d'un mot, l'hypothèse que j'aimerais soutenir, c'est que la médiation, ainsi conçue en opposition avec la justice, témoigne sans doute dans un contexte positiviste, qui est bien le nôtre. J'ai fait des études de droit, c'est Kelsen de part en part. Donc témoigne réellement d'une prise en compte de certaines insuffisances du positivisme lui-même. Je pense que le succès de la médiation doit, sa part à cette réalité et à la prise de conscience, je dirais, quasi spontanée de ces insuffisances. Mais dans le même temps, il est possible que la médiation favorise exactement le contraire, c'est-à-dire une sorte d'hyper-positivisme individualiste. Bon, donc on est à la croisée des chemins, si je puis dire. Je m'explique. Le premier temps de l'affaire, ce serait de reconnaître que l'essor de la médiation implique la prise en compte, comme on vient de le voir, du fait que la généralité abstraite de la loi n'est sans doute pas capable de prendre en charge la particularité des cas. Deuxième point, la notion d'application de la loi, le fameux syllogisme parfait de Beccaria, n'est donc pas satisfaisante. Elle mutile la particularité des litiges et des personnes qui s'y rapportent. Ok. On pourrait alors penser que la médiation se rapproche, de la pensée juridique, j'allais dire juste naturaliste, quand elle avance que le droit provient ou même est dans les choses, et qu'il s'agit moins de le poser ou de le constituer que de le découvrir, et maïotiquement en quelque sorte. On croirait presque découvrir la pensée de Michel Villet sur ces questions finalement. La maïotique suppose que la vérité dépasse et finalise la dialectique, le dialogue, qui peut en permettre la formulation. Mais, et c'est là peut-être le problème dans cette affaire, c'est sans compter la disqualification, j'allais dire postmoderne, c'est-à-dire celle que nous vivons, de la notion même d'ordre des choses, qui accompagne ou qui accompagnait cette démarche dans la situation qui est maintenant la nôtre. Le droit ne sort pas dans cette affaire de l'ordre des choses, mais bien davantage des volontés individuelles, qui cherchent simplement un consensus, si je puis dire, négocier. Et en ce sens, la médiation accomplit, j'allais dire, un certain positivisme débridé. Au fond, la médiation pourrait apparaître alors comme le moyen parfait de neutraliser toute espèce d'instance, toute espèce d'autorité extérieure à la volonté individuelle des gens qui se rapportent au conflit. Bien. Alors, là-dessus, puisque, oui, je vais être court, j'entre pas dans la... Enfin bref, je suis court, et je vous propose simplement pour vous donner à voir effectivement cette tension qui peut exister, j'aimerais vous lire un tout petit passage d'un bouquin donc d'un professeur de droit, Alain Sériot, disons représentant du courant du droit naturel, si vous voulez. Mais je vais vous donner lecture de ce petit passage parce qu'il me semble symptomatique de... Vous allez voir le petit homme postmoderne en vous se rebeller face à ce que dit Sériot, de façon inévitable. Alors, je lis simplement. Il parle donc de la médiation. La réconciliation opérée, le médiateur doit s'effacer pour n'être plus, dans l'esprit de ceux qui se sont réconciliés, que l'un des rares souvenirs heureux d'un moment pénible. Médiateur, il se doit d'être au milieu, ni d'un côté ni de l'autre, se confondre avec le lien social lui-même, en partie brisé, et dont il tâche d'opérer le rétablissement. Ainsi, alors c'est là que c'est tendu. Le médiateur dans un conflit entre deux personnes mariées ne saurait leur proposer le divorce. Deux points. Rompre le lien qui les unit. Son œuvre, au contraire, doit consister à montrer aux membres du couple que ce lien entre eux qui subsiste vaut d'être préservé coûte que coûte. Et réactivé par le biais du pardon. Alors là, attention, il sort la grosse artillerie, c'est lui. Bon. Il doit être l'ami du couple, alors vous voyez, l'ami du couple, et non du seul mari ou de la seule épouse. Peser de tout son poids pour aller au-delà du droit, de la stricte justice, en faveur de l'amitié, de la pleine justice, telle est sa raison d'être. Sous cet angle, termine donc Sériot, la médiation est d'une incontestable utilité sociale, plus encore que l'arbitrage. Bon, alors là, simplement, un petit commentaire sur cette question, parce que, il me semble, pour revenir sur ce que vous disiez au départ, je dirais que la corde qui permet la concorde suppose, d'un point de vue platonicien, que la société soit déjà tissée. Et ça, c'est le rôle du politique. Or, le problème que nous avons à vivre, c'est ça que j'appelle au fond la postmodernité, c'est que nous devons vivre ensemble, mais nous n'avons rien de commun. Et, ou plutôt, nous pensons comme si nous n'avons rien de commun. Parce qu'en fait, je pense que les choses sont plus complexes que ça. En fait, on a quelque chose de commun. Mais nous pensons, idéologiquement, comme si nous n'avions rien de commun. C'est ça, l'individu. L'individu est en fait une construction. On pense, à partir de l'individu, des réalités qui sont d'emblée sociales. Si bien que, pour prendre un cas qu'il faut citer quand même, parce qu'il est quand même assez symptomatique, puis je viens de parler de Sériot, donc c'est quand même... Si vous prenez le passage de l'évangile de Matthieu, où on a ce fameux passage, je vous le dis en effet, donc le Christ parle ainsi, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la gêne du feu. Ce qui suppose donc, quand même, aujourd'hui on dirait dans le vocabulaire moderne, effectivement, des valeurs communes. C'est le minimum, parce que sinon ça ne fonctionne pas. C'est d'ailleurs pourquoi des modernes comme Locke considéraient qu'on ne pouvait pas vivre avec des athées, ce qui pour le champion du monde de la tolérance, le premier qui a précisément envisagé la notion de tolérance, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'instance qui dépasse les volontés individuelles, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on ne peut pas, comment dire, avoir foi dans la parole de l'autre. Comprenez que bon, là je vais loin, mais bon, c'est pour poser le problème et le débat, hein, j'imagine bien. Donc, ajoute le Christ, donc lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va te réconcilier. C'est-à-dire que la réconciliation est envisagée justement comme un bien. C'est pourquoi je dirais que, pour rebondir sur la notion de neutralité, je dirais que le médiateur n'est pas et ne peut pas seulement être neutre, mais il doit d'une manière ou d'une autre être bienveillant. Il doit être bienveillant, c'est-à-dire qu'il doit, dans sa manière d'être présent, au dialogue qui s'instaure, envisager, et là, j'allais dire, il faut qu'il se mouille, même s'il n'est pas obligé de le dire explicitement en toutes les 4 secondes, mais il peut avoir en tête, et il a en tête, quelque chose comme un bien qu'il poursuit. Hein ? Bon, il le fait autant que faire se peut, bien sûr, il s'agit d'une justice humaine, là, pour le coup, bien. Et alors, on ajoute, accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Eh bien, il me semble qu'on a un exemple fameux de médiation avant justement le procès, mais pas avant, je dirais, la médiation intégrée justement à l'acte de justice à travers cette, je cite toujours cette pièce, donc, le marchand de Venise. Même si, alors, pour des considérations, effectivement, souvent, on ne lit pas cette pièce parce qu'elle est censée être antisémite. Bon, mais il faut passer, je pense, ce premier passage et lire la pièce parce qu'elle mérite vraiment absolument d'être lue. Et au moment où il y a ce problème entre Antonio et Shylock, eh bien, Portia, qui apparaît ici justement comme une médiatrice par excellence, demande à Shylock d'envisager la clémence, d'envisager la miséricorde. Avant même de trancher, si vous voulez. Il faut qu'il envisage la miséricorde parce que, dit-elle, si qui d'entre nous pourrait tenir face à l'Éternel si l'Éternel lui-même n'était pas miséricordieux? Autrement dit, la clémence est une manière quasi surhumaine d'atteindre donc un certain type de justice. Et dans la médiation, il me semble que la médiation peut se mettre au service, que d'une certaine façon, elle l'est, mais elle peut effectivement jouer exactement le contraire. Je terminerai par cette question en disant que la médiation, soit elle se pense, elle se vit au service d'un juste substantiel, ou alors seulement, j'allais dire, mais c'est peut-être objet de débat, d'un consensus formel.